Voilà, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez bien vécu ce moment de louange ? Moi, j'ai bien vécu parce que j'avais pas de masque, mais j'avais une petite frustration, c'est que je pouvais pas me lever. Ça me démangeait par moments. Je sais pas si c'était la même chose pour vous. Est-ce qu'on prend quelques secondes juste pour se lever ? On fait un tour sur soi-même. Voilà, on se détend un peu les jambes, mais on s'approche pas des autres. Voilà, comme ça. En tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir me lever, alors je trouverais dommage de pas vous donner l'occasion de le faire. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir tous là. Il y a un beau panel, je trouve. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Voilà, il y a plusieurs générations ensemble. C'est vraiment chouette. Enfin, il manque peut-être une génération aussi, quoi. Il manque la génération des enfants. Voilà, on pense bien à eux, à la maison. On pense bien à vous. Et je profite de saluer mes enfants, du coup. Hein Bonjour, Isaline, Nathan et Nora. Non, mais je sais que... Mais tous mes enfants ont deux prénoms, c'est pour ça que je... Mais c'était super cette semaine parce que pour la première fois, Nora commence à marcher. Alors c'est vraiment un moment... C'est toujours émerveillant de voir ses petites jambes, ses petits bras se lancer un peu comme ça et se sauter dans vos bras avec un sourire grand comme ça. C'est vraiment extraordinaire. C'était vraiment un beau moment de cette semaine. Je profite de saluer aussi ma famille aussi, à qui j'ai envoyé le lien. Et puis je veux saluer aussi tous ceux qui sont peut-être qui ont reçu ce lien, qui sont en lien avec nous ce matin et dans ce culte. Voilà, soyez les bienvenus au milieu de nous. Alors ce matin, j'avais envie de continuer un petit peu dans ce qui a été partagé ces dernières semaines. Il y a eu François, il y a eu plusieurs messages dans ce ministère, cette action aussi de l'esprit dans nos vies. C'est vrai que quand j'ai pensé au confinement, je me suis dit que c'est quand même un moment pas évident parce que des fois, il y a des ministères, des personnes qui sont des références, qui nous aident à avancer. Et dans ce confinement, et maintenant on l'est un peu moins, mais on est encore un petit peu séparés, on ne pouvait plus s'appuyer sur des personnes ou des ministères autour de nous. Quelque part, il nous restait. On est des fois, certaines personnes étaient seules en fait avec elles-mêmes dans leur maison, dans leur vie. Et heureusement que nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Amen. Parce qu'on n'est jamais seul. Et ce Saint-Esprit-là, c'est tellement important de comprendre aussi son action, son œuvre, sa personne. Et je trouvais bien de pouvoir continuer ce matin à parler de lui. Parce que nous sommes limités, les ministères sont limités, les personnes sont limitées, mais le Saint-Esprit est illimité. Amen. Il est éternel. Et je trouvais bien qu'on puisse s'arrêter ce matin sur un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et on va lire les versets 5 à 10. Vous pouvez suivre avec moi. Donc Jean, chapitre 3, versets 5 à 10. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Et il dit... Jésus répond à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Alors Nicodème reprit la parole, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Mais tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela ?» Alors on connaît bien ce chapitre 3 de l'évangile de Jean, parce qu'on connaît Jean 3,16, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », c'est un verset extraordinaire. Mais on ne va pas s'arrêter sur ce passage ce matin, on va s'arrêter plutôt sur un autre endroit qui est principalement le verset 8, qui est pour moi le cœur aussi de ce que Jésus dit à Nicodème, et je vais vous le relire au verset 8. « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, et il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Alors Jésus, il aimait beaucoup les comparaisons. C'était un formidable pédagogue, il utilisait des images pour nous faire comprendre des choses spirituelles. C'est très difficile d'expliquer le spirituel. Alors il prend des images pour essayer de nous faire comprendre. Et il prend l'image du vent pour comparer le vent à l'action de l'esprit. L'action de l'esprit de Dieu dans nos vies. Et vous savez que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le mot vent et esprit, c'est le même mot. Dans l'Ancien Testament, c'est ruach, c'est à la fois utilisé pour le vent comme pour l'esprit, et dans le Nouveau Testament, c'est pneuma, utilisé aussi dans les deux cas. Hein, vous savez que si, par exemple, vous avez une voiture et que vous avez des pneus, on met de l'air dans vos pneus, mais pas de l'esprit, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Par exemple, en théologie, par exemple dans les écoles bibliques, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la doctrine de la pneumatologie. C'est un peu scientifique comme ça. Ça n'a rien à voir avec les garagistes. C'est la doctrine du Saint-Esprit, tout simplement. Donc on parle, c'est vraiment le même mot. Et je me suis intéressé à aller voir ce que le dictionnaire disait du mot vent. Alors j'ai trouvé ceci. La définition, c'est un mouvement de l'atmosphère qui est ressenti au voisinage du sol. C'est un mouvement de l'atmosphère qui est ressenti au voisinage du sol. Alors, si je paraphrase un petit peu autrement, c'est comme si je disais, ça commence en haut et ça se ressent ici en bas. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Ça commence en haut, ça vient d'en haut, et ça se ressent ici. Ça a des effets ici, dans nos vies. Ça a des conséquences concrètes dans nos vies. On n'est pas juste des chrétiens d'en haut. Des fois, on peut des fois reprocher à certains chrétiens d'être trop la tête dans les nuages. Hein ? La tête, on disait même une expression à l'époque, les TTS. Vous avez déjà entendu ça ? Les très très spirituels. Voilà. Mais c'est Dieu nous appelle par son esprit, veut souffler sur nous, mais veut qu'il y ait des actions concrètes dans nos vies, des conséquences ici sur terre. Alors nous allons voir ce matin plusieurs choses à ce sujet de ce vent. Nous allons parler d'abord de l'activité du Saint-Esprit, on parlera de la liberté du Saint-Esprit, on parlera de l'évidence du Saint-Esprit et enfin du mystère du Saint-Esprit. C'est un petit peu le menu de ce matin, qui est basé un peu sur Jean 3, verset 8, qui est cette comparaison avec le vent. La première chose qui est dit, c'est que Jésus dit « le vent souffle ». C'est une affirmation. Il n'est pas dit qu'il souffle de temps en temps, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça arrive qu'il affirme, il souffle. Et qu'on le veuille ou non, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et dans le monde. Qu'on le veuille ou non, le Saint-Esprit agit. Amen. C'est quand même extraordinaire. Ça commence par une bonne nouvelle. Ça ne dépend pas de nous. C'est une action de Dieu. Le vent souffle. Alors, je dirais heureusement que cela ne dépend pas de nous. Heureusement que ça ne dépend pas de moi. Le Saint-Esprit peut agir librement comme il veut. Et c'est bon de savoir ça, hein, surtout quand on perd des fois un peu le contrôle dans nos vies, de savoir que lui, il est au contrôle, et que ce n'est pas moi, et que quelque part, il n'a pas besoin de moi. Et beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs tombent aussi des fois dans ce piège, parce qu'on aimerait des fois tellement voir l'action de Dieu dans la vie des gens, du Saint-Esprit, que parfois, on fait un petit peu son boulot, hein, on l'aide un petit peu. Et là, il y a un risque. Il y a un risque aussi, des fois, de forcer ou de manipuler. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui peut aller partout, qui peut aller là, qui peut accéder à des endroits que jamais je pourrais accéder. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Même Jésus, qui était quand même... Jésus, c'était... waouh. Jésus qui a marché sur terre, qui était le plus grand enseignant, le plus grand prédicateur, qui utilisait les meilleures images, qui était le plus grand guérisseur, thaumaturge, qui faisait une œuvre incroyable. Même lui, il a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Parce qu'il avait compris, il savait que, étant dans un corps sur terre, eh bien, il était limité. Limité physiquement, limité géographiquement. et qu'il était avantageux que le Saint-Esprit vienne et habite dans chaque croyant et puisse faire continuer son œuvre merveilleuse, son ministère. Donc, heureusement que je ne peux pas tout faire et que vous ne pouvez pas tout faire. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Et on le voit, dès la Pentecôte, on en a parlé dernièrement, on était à Pentecôte, il y a ce vent impétueux qui est venu. Des traductions disent un souffle violent qui est venu et qui est descendu sur les chrétiens qui l'attendaient, le souhaitaient, le désiraient. Un peu plus loin dans Actes 31, 4 verset 31, il est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Waouh ! Le lieu dans lequel ils étaient trembla. Alors on pourrait se dire « Ah c'est super, ça a tremblé, alors maintenant on va faire un pèlerinage et puis il faudra revenir chaque année ici parce qu'il s'est passé ça. » Non, regardez la suite. « Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est cela que veut faire le Saint-Esprit. C'est cela. Il y a une action concrète. Ce n'est pas juste un bon frisson, mais c'est parce qu'il y a une action concrète que Dieu veut faire. Il veut annoncer le salut à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, je ne sais pas si on ose faire cette prière. Seigneur, viens faire trembler ces lieux. Hein ? On risque d'avoir un peu des frais, hein, Olivier, notre comptable. On a déjà des travaux au sous-sol. Il ne faudrait pas qu'on commence à tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette action est là vraiment pour nous transformer. Alors, il y a des chrétiens évangéliques qui disent, alors, ça s'est passé à Pentecôte et après, c'est terminé. Ça s'est arrêté, c'était une fois que c'est arrivé. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit a continué d'agir. On voit dans la vie des apôtres qui se déplaçaient, le Saint-Esprit agissait au travers d'eux. Et on le voit dans toute l'histoire de l'Église. Alors peut-être qu'on se dit, mais on n'a pas l'impression, mais vous savez, à l'époque, on n'avait pas de mail, on n'avait pas d'Internet, et on ne savait pas tout ce qui se faisait. Mais il y a une action de Dieu dans toute l'histoire de l'Église. Même dans une période qu'on appelle l'âge sombre, le Saint-Esprit agissait, parce qu'il y a des personnes qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont été sensibles à son action et qui ont mis en pratique. Et c'est extraordinaire, malgré leurs défauts et leurs faiblesses. Dieu a agi, son vent a soufflé dans toute l'histoire de l'Église. Il y a un livre d'ailleurs très intéressant que je lis en ce moment sur l'histoire de l'Église. Et c'est très intéressant de voir l'Église ignorer les choses que Dieu a faites dans toute cette histoire. Et vous savez, ce n'est pas à Azusa Street, vous savez, c'est là où a démarré le mouvement de Pentecôte au XXe siècle. Ce n'est pas là que le Saint-Esprit a commencé à agir. Bien sûr qu'il y a eu une action forte, mais ça a commencé bien avant. Et j'ai une bonne nouvelle, ça continue encore aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Et ça continue. Ah, j'entends yes, ah, ça fait plaisir, je ne suis pas tout seul. Il a gardé l'Église debout et il continue d'agir dans le monde, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. C'est vrai que des fois, on ne sent pas toujours le Saint-Esprit. On ne le ressent pas toujours. Et je me pose la question, mais pourquoi ? Parce que vous savez, des fois, on se met un peu dans nos abris anti-Saint-Esprit. Vous savez, en Suisse, il n'y a pas que les abris anti-atomiques. Il y a les abris anti-Saint-Esprit. On se protège. Alors, peut-être que c'est vrai, on a vu des expériences qui nous ont choqués, frappés. Et j'entends des fois ce genre de témoignages. Et du coup, quand ça arrive, quand le vent souffle, hop, on lève nos boucliers. On se met dans nos abris et on se protège. Un peu, on met des paravents, ça c'est la bonne expression. Des paravents pour se protéger. Mais pourtant, le vent souffle. Alors on peut se mettre bien sûr dans nos abris, mais ça ne va pas empêcher le vent de souffler et d'agir. Et peut-être qu'on ne sera pas au bénéfice de son vent. Mais il agit encore aujourd'hui, il parle, le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit corrige, le Saint-Esprit convainc les gens de pécher. Waouh, on en a tellement besoin. On ne peut pas convaincre les gens avec de l'argumentaire. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Il est puissant. Rien ne peut arrêter ce vent et personne ne peut empêcher ce vent de souffler. C'est ce que dit ce texte. La deuxième chose dont nous parle ce texte, c'est qu'il nous parle de la liberté du Saint-Esprit. On a vu l'activité du Saint-Esprit, on va voir la liberté. Le vent souffle où il veut. Alors, j'aimerais vous poser une question ce matin. Qui de vous arrive à capter le vent et à le saisir? Personne. Celui qui arrivera à faire ça, il va devenir riche. Hein. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. De la même manière qu'on ne peut pas saisir le vent et le garder dans notre main, on ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit, le garder. Le Saint-Esprit agit librement, sans restriction. Amen. Il agit librement. D'ailleurs, il n'y a pas une expression qui dit « être libre comme l'air ». C'est le Saint-Esprit, enfin, le vent est libre. Le Ruach est libre. L'Esprit est libre. Le Saint-Esprit ne nous est pas soumis et on ne le commande pas. Et vous savez, je suis parfois mal à l'aise dans certains milieux où on donne, ça m'est arrivé d'entendre, où on donne des ordres au Saint-Esprit. Moi, ça, je suis pas très à l'aise avec ça. On ne donne pas des ordres au Saint-Esprit. On prie, on le prie, on lui fait part de nos souhaits, de notre désir, mais on ne le commande pas. Il est libre. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il est dit, on peut lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, on reviendra sur chapitre 12, donc gardez après ouvert ce passage. Un seul et même esprit opère toutes choses, distribuant les dons, donc dans le contexte, à chacun en particulier comme il veut. Il distribue les dons comme il veut. Dans Joël, au chapitre 2 et au verset 28, vous savez, c'est ce texte très connu que Pierre a repris à Pentecôte. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ce n'est pas écrit sur certaines personnes, mais sur toute chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Je repense à une dame qui priait, qui disait, qui s'était trompée, qui avait dit « Vos vieillards auront des sondes. » Alors, je me rappellerai toujours, chaque fois que je dis ce texte, c'est horrible, je repense à ça. C'est une réalité, c'est vrai, mais revenons à la réalité du texte, qui est quand même plus intéressante. « Vos vieillards auront des songes. » Amen. « Et vos jeunes gens, des visions. » « Même les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. » Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. Dieu n'est pas limité. Des fois, on peut se dire, mais les jeunes, ah, ils ne sont pas prêts. Non, mais si tu n'as pas d'expérience, le Saint-Esprit peut être donné. Et on peut se dire, ah, mais les esclaves à l'époque, c'était des gens qui étaient vus moins que rien, les esclaves. Les serviteurs et servantes, il est dit dans le texte, c'est le terme d'esclave. Eh bien, Dieu est libre et il a répandu son esprit sur eux. Il a fait fi des conventions sociales de l'époque. C'était une nouvelle communauté dans l'Empire romain, parce que dans l'Empire romain, il y avait le pater familial qui se convertissait, c'était plus que juste la famille nucléaire d'aujourd'hui, il n'y avait pas juste un père, une mère et des enfants, il y avait des serviteurs, des servantes, il y avait même des oncles, des tantes, tout le monde habitait sur le même toit. Donc quand le Saint-Esprit venait dans une maison, il remplissait toute la maison et même les esclaves. C'était révolutionnaire à l'époque, vous imaginez, dans une culture romaine ou dans une culture de l'esclavage de l'époque. Donc le Saint-Esprit est totalement libre, il fait comme il veut. Et vous savez quoi? Le diable, le monde veulent des fois tellement nous soumettre et maîtriser les gens. On le voit, il y a tellement de moyens de contrôle, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est maîtriser le Saint-Esprit. Amen. Et ça me réjouit. Il agit comme il veut. Il agit où il veut. Alors, ne cherchons pas à l'empêcher d'agir, ni à le manipuler dans son action. C'est quelquefois un danger. La troisième chose qui nous est dit ici, il nous est parlé de l'évidence du Saint-Esprit. En fait, il dit à un moment donné, tu en entends le bruit. Tu en entends le bruit. Les effets de la puissance du Saint-Esprit sont évidents. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, ça produit quelque chose, ça s'entend et ça se voit. Alors, je ne suis pas en train de dire que plus il y a de bruit, plus il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Mais si on reprend l'image du vent, quand le vent souffle, eh ben, les feuilles bougent et même peuvent faire du bruit. Il y a un mouvement. Il y a une évidence de dire, de voir que le vent fait déplacer des fois des objets, la force du vent des fois, hein, fait déplacer des feuilles et produit un bruit. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se passe. Quand l'Esprit agit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ferveur, il y a une action. On est en mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. Je ne vais pas dire qu'il faut être secoué parce que ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit. Mais il se produit quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, il y a trois évidences du Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas faire une étude biblique ce matin, mais j'aimerais juste rapidement passer sur ces trois évidences. À la Pentecôte, et d'autres fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont parlé en langue. C'est une des évidences. Je ne crois pas que c'est l'évidence unique et absolue, mais c'est une des évidences du Saint-Esprit. Et après, on continue, il ne faut pas s'arrêter là. Une autre évidence du Saint-Esprit, c'est les dons. Alors, on ne va pas faire l'étude, comme je l'ai dit, mais on peut lire la liste dans 1 Corinthiens 12. On va le lire rapidement. Il est dit, 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » De nouveau, ce n'est pas pour dire « je suis le meilleur, regardez le don que j'ai », c'est pour l'utilité commune, pour les autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ah tiens, on devrait un peu plus prier aussi pour cette parole de sagesse. On demande souvent la prophétie ou parler en langue, mais parole de sagesse, c'est quand la dernière fois que j'ai demandé ça à Dieu dans ma liste de prières. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre, les dons de guérison par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, diverses sortes de langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, ça c'est le verset qu'on a déjà lu, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On peut souhaiter et aspirer à des dons, mais de nouveau, le Saint-Esprit est libre, Dieu est souverain et il peut nous communiquer les dons aussi qu'il veut. Et il ne faut pas aussi le limiter. Or, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a plusieurs possibilités des dons du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a des dons qu'on reçoit de manière permanente et il y a des dons qu'on reçoit de manière unique et ponctuelle pour une situation précise, un moment précis. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, ce n'est pas parce que vous avez été amené à donner une prophétie une fois que ça y est, maintenant vous êtes cantonné à donner des prophéties tout le temps et vous êtes enfermé là-dedans. Le Saint-Esprit est libre et peut peut-être, à une autre occasion, vous inspirer dans une situation particulière à donner une parole de connaissance. Et ça ne veut pas dire de nouveau que vous serez cantonné les prochains dimanches en disant « il faut que je donne des paroles de connaissance ». Donc il faut bien comprendre cela, dans ces manifestations de l'Esprit. Il y a des choses qu'on reçoit pour un certain temps ou de manière permanente et il y a des choses qu'on reçoit de manière ponctuelle et après, plus forcément, ou plus ça peut revenir. Parce que Dieu, il agit librement. Il agit librement, comme il veut. Et une autre évidence, une dernière évidence de l'action de Dieu, cette partie-là, c'est le fruit de l'Esprit. Hein ? On reconnaît un arbre à ses fruits. Alors Dieu ne nous a pas appelés à être des arbres d'ornement, mais il nous a appelés à être des arbres fruitiers. Cette semaine, je suis allé cueillir des fraises avec mes enfants. Ils sont à l'honneur ce matin, hein. C'est particulier, c'est pas voulu. Et c'était super de pouvoir les cueillir directement, le fruit, ensemble, de trouver ça et de manger ces fruits qui étaient vraiment bons, quoi. Quand c'est cueilli comme ça, sur le moment même, ça, c'est juteux, ça a du goût, etc. Je vous fais envie. Hein. J'en ai encore quelques-unes si quelqu'un veut venir manger des fraises chez moi. Donc, c'est pour dire que c'est notre appel. On est appelé, par le fruit qu'on porte, à donner du goût autour de nous, à désaltérer les gens, à les nourrir. Et Galates 5, verset 22, on peut relire juste la liste du fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà des évidences du Saint-Esprit dans nos vies. Que l'action de l'Esprit soit évidente au milieu de nous dans ces domaines-là. Qu'il y ait du parler en langue, qu'il y ait de l'interprétation, qu'il y ait de la prophétie, qu'il y ait des miracles, des guérisons, des paroles de foi, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, etc. etc. Et qu'on puisse vraiment voir les effets du Saint-Esprit sur nous, sur chacun d'entre nous. Il y a un verset qu'on entend souvent qui dit que tout se fasse avec ordre et bienséance. Vous avez déjà entendu ce verset ? Vous connaissez ? Et ça dépend comment on le dit, de la tonalité dans laquelle on dit, mais on peut mettre différents accents suivant comment on le dit. Par exemple, on peut dire que tout se fasse avec ordre. Ou bien on peut dire que tout se fasse avec ordre. Vous voyez la différence ? Et parfois dans l'Église, il y a les deux camps en opposition. Il y a ceux qui disent que tout se fasse et l'autre qui disent avec ordre, que tout se fasse avec ordre. Vous voyez ? Alors que tout simplement, il faut dire que tout se fasse avec ordre. Parce que des fois, on veut tellement d'ordre que ça verrouille, ça bloque et ça freine. Mais à l'inverse, les extrêmes ne sont jamais bons. Des fois, on veut tellement qu'il se passe quelque chose que finalement, c'est le désordre qui arrive. C'est les chenilles, comme on dit chez nous. Et ce chenille-là, ben, des fois, on veut tellement qu'il se passe quelque chose qu'on fait n'importe quoi au nom du Saint-Esprit. Mais le plus important, c'est qu'on ait les évidences du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Et enfin, la quatrième chose que Jésus nous parle ici, c'est le mystère du Saint-Esprit. Tu ne sais, lui dit Jésus à Nicodème, à propos du vent, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Vous savez, il y a une grande erreur dans nos églises, c'est d'avoir voulu expliquer le Saint-Esprit, d'avoir voulu analyser le Saint-Esprit, d'avoir voulu, quelque part, le disséquer, l'expliquer, le mettre en boîte. Alors on l'a mis dans des jolis petits tiroirs. Dans les églises de réveil, c'est comme ça que le Saint-Esprit, ça se passe, comme ça qu'il agit. Dans les églises apostoliques, c'est ça qu'on enseigne, dans la jolie petite boîte apostolique. Dans les églises d'arbistes ou dans les églises, bon, je ne vais pas faire la liste de tous les mouvements qui existent, sinon on va être encore là pendant un moment, on a mis en boîte, alors des fois ça nous sécurise un petit peu, mais on l'a mis en boîte dans des petits tiroirs, comme ça nous arrange. Et j'aimerais vous dire qu'on doit admettre humblement, et moi le premier, que cela nous dépasse. Tout ce qui touche au Saint-Esprit nous dépasse. Et heureusement qu'on ne peut pas tout expliquer. Heureusement. Ce serait ennuyeux une vie où on saurait tout à l'avance. On pourrait tout expliquer. Moi, je n'envie pas ceux qui savent tout. Je ne les envie pas du tout. Parce qu'il n'y aurait plus de surprises. Il n'y aurait plus de nouveautés. Il n'y aurait même plus rien à apprendre. On n'aurait plus qu'à attendre la mort, finalement. En fait, bien tristement. Mais heureusement, on a besoin d'apprendre. Et avec le Saint-Esprit, on a encore besoin d'apprendre. On a toujours besoin d'apprendre. Il n'a pas fini de nous étonner. Tu ne sais pas, dit Jésus. Et il y a deux choses qui relèvent dans ce mystère de tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Alors, tu ne sais pas d'où il vient, c'est le mystère de son origine. Donc, il n'est pas en train de parler de l'origine du Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas en train de dire que c'est autre chose. Mais si on reprend l'image du vent, vous savez que quand le vent souffle, vous ne savez pas où il a commencé à souffler. Si vous êtes à Lausanne et puis que vous dites le vent souffle, est-ce que vous pouvez dire s'il a commencé à Genève, à Nyon ? On ne sait pas son origine et son départ et son commencement. On ne sait pas d'où il part. Eh bien, c'est ce qui veut dire ici, et comme le dit d'ailleurs l'Ecclésiaste, il en parle à un moment donné, dans Ecclésiaste au chapitre 11, verset 5, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Tu ne sais pas. On ne connaît pas l'origine de toutes les choses. On ne sait pas donc comment ou quand le Saint-Esprit commence à souffler et à agir. Mais une chose est sûre, c'est quand il souffle, ça fait du bien. Hein ? Ça fait du bien. Et c'est là, quelquefois, notre erreur. C'est que, et des fois, on le fait, moi aussi, enfin, c'est naturel. C'est que quand il y a une action de Dieu dans le monde, quelque part, dans un pays ou dans un endroit, on va vite voir ce qui se passe. On dit, oh, regardez, peut-être l'action a commencé quand les gens commençaient à jeûner. Alors on revient, on dit, il faut jeûner, c'est ça la clé. Puis il y aura l'action de l'Esprit. Ou bien des fois, ça peut être, les gens se sont rassemblés pour prier, puis il y a une action de l'Esprit, ils commencent à souffler. Et les gens disent, ils reviennent, ils disent, ah, il faut qu'on relance des réunions de prière. Mais ce qui a commencé comme ça là-bas, ça ne veut pas dire que ça va commencer comme ça ici. Il y a un mystère. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises ou sont pas bonnes. Hein. C'est bon de prier, c'est bon de jeûner. Le Seigneur nous encourage à le faire. Et je pense que même quand on prie, on jeûne, on se place aussi à disposition de l'Esprit. Donc, il se passe quelque chose, toujours. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas capter de la méthode et de l'action du Saint-Esprit. Quelque chose qu'on ne peut pas capter, il y a un mystère. Et dans le deuxième aspect du mystère du Saint-Esprit, il y a le « tu ne sais où il va ». Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Là, on touche à un deuxième mystère du Saint-Esprit qui est la destinée inconnue du Saint-Esprit dans nos vies. Notre destinée. Ça nous embête, hein, parce qu'on aimerait bien savoir où on va. Je ne sais pas vous, mais des fois, on aimerait bien un petit peu, Seigneur, si tu peux nous en dire un peu plus, ce qui nous réserve. Mais il y a un mystère qui est là. On ne sait pas toujours où le Saint-Esprit peut nous amener et où il peut nous conduire, personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Qui peut dire ce matin où le Saint-Esprit va l'emmener ? Hein ? Alors c'est vrai qu'on pourrait voir dans la vie des gens, s'inspirer de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, en disant peut-être qu'il va faire ça avec moi, mais peut-être ce qu'il a fait avec l'un ne va pas faire ça avec moi. Il va faire autre chose. C'est là que c'est important, vraiment, d'être à son écoute. Vous savez, à une époque où tout le monde partait en mission, dans les années 60, 70, quand le renouveau charismatique, mes parents sont partis en mission à cette époque-là. Et c'était presque une mode. Je me rappelle que ma tante n'avait pas reçu un appel pour partir en mission. Mais il y a une pression qui était là, quelque part, parce que c'était ce que l'Esprit faisait en ce moment. Et du coup, elle avait dit, j'ai reçu un appel pour rester en Suisse. Elle disait ça aux gens. Si vous connaissez ma tante, c'est un sacré caractère. Elle dit, j'ai reçu un appel pour rester. Eh oui, Seigneur, on ne sait pas ce que tu veux faire. Vous savez, si on prend l'image d'un lâcher de ballon, vous savez, cette image, vous la connaissez bien puisqu'elle est dans le streaming assez souvent, dans Culte en direct, ce lâcher de ballon qu'on a fait avec l'Église. Vous savez, si vous faites un lâcher de ballon, et puis que vous accrochez une carte de manière à ce qu'on vous réponde, vous lâchez les ballons et vous regardez où vont les ballons. Et peut-être que dans quelques jours, vous allez recevoir une carte d'un ballon qui a atterri dans le sud de la France. Super. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous allez commencer à écrire un enseignement sur les lâchers de ballons, sur comment se dirigent les ballons, une doctrine des ballons, en disant... Dimanche prochain, on va se retrouver à tel endroit, à telle heure, on va lâcher les ballons, et ces ballons-là iront dans le sud de la France. Mais on ne fait pas ça. On ne peut pas savoir où vont aller les ballons. De la même manière dans nos vies, on ne sait pas où Dieu peut nous emmener. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'un jour, le ballon va arriver dans le sud de la France, et un autre jour, il arrive en Allemagne ou dans un autre pays. Et personne commence à faire une doctrine en disant « ça va se passer comme ça ». Ben, c'est la même chose avec le Saint-Esprit et dans nos vies. Ne faisons pas des doctrines qui vont tout expliquer. Qui sommes-nous pour le faire ? On ne sait pas où le Saint-Esprit peut nous emmener. Regardez dans la vie des hommes de Dieu, dans l'Écriture. Paul qui détruisait les églises, qui combattait les églises, qui persécutait les chrétiens, qu'est-ce qu'a fait le Saint-Esprit dans sa vie ? Quelle était sa destinée ? Il est devenu un constructeur et un bâtisseur d'églises. Qui aurait pu s'imaginer cela ? Prenez un Pierre qui était apeuré, qui avait peur pour sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre ? Quelque temps après, il s'est levé et il a parlé à une foule, à la même foule avec laquelle il avait peur avant, de ce Jésus. C'est incroyable. Qui aurait pu parier sur ça ? Personne. On ne peut pas parier sur ça. On ne peut pas envisager cela. Et dans Ézéchiel, il y a une vallée d'ossements desséchés. Vous connaissez ce texte. Et à un moment donné, de ces ossements desséchés deviennent une armée. Mais qui aurait pu imaginer ça ? Que Dieu peut faire de ces ossements une armée en marche. Ben, il y a eu le souffle de Dieu entre deux. Alors laissons le faire, laissons le Saint-Esprit diriger nos vies. On ne sait pas où notre ballon va aller, mais surtout ne faisons pas l'erreur de vouloir le canaliser. C'est nous qui devons être canalisés par le Saint-Esprit. C'est nous qui devons être à sa disposition. Vous savez, le vent, on peut peut-être un peu le canaliser. C'est pas chez vous, si vous voulez avoir un courant d'air, vous ouvrez à tel endroit, vous ouvrez à un autre endroit, puis vous pouvez choisir quelque part que le vent entre par là et sorte par là. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le canaliser. Et c'est là que s'arrête l'image aussi du vent, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Le vent, il est créé par Dieu, mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Et ça fait toute la différence. Alors, je vais terminer avec ce verset qui, je pense, pour vous, prend un autre relief. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors, laissons-nous imprégner tout à nouveau. Laissons-nous être renouvelé par le Saint-Esprit. Laissons-nous être remplis du Saint-Esprit. Laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit dans les choses merveilleuses qu'il a pour nos vies. Et surtout, n'ayons pas peur du Saint-Esprit. On va prier. Merci Seigneur parce que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, je te demande de souffler sur chacun ici présent et ceux qui sont à la maison. Viens, renouvelle-nous, remplis-nous. Et dans cette période de déconfinement où on est, c'est vrai, séparés les uns des autres, viens bénir ton Église. Viens souffler sur elle, souffler sur nos vies. Viens débarrasser de nos conceptions, de nos blessures. Viens faire tomber nos abris. Viens nous rencontrer, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi dans nos vies. J'ai besoin de toi dans ma vie. Et c'est vrai, Seigneur, si j'ai pu vivre des choses, je ne veux pas que ça devienne des médailles du passé. Je veux que ce soit encore aujourd'hui un renouvellement. je veux qu'encore aujourd'hui, ce soit un jour nouveau avec toi, dans ce que tu veux faire. Et dans cette période aussi, nous voulons prier pour nos églises. Chacune de ces églises que tu aimes, ces églises de la région lausannoise et au-delà, nous prions pour elles, Seigneur. Que ton vent souffle dans nos églises. Que ton vent remplisse ton église de sa puissance. Que ton action soit évidente et manifeste au milieu de nous. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, parce que tu es à l'œuvre. Tu ne t'arrêtes pas. Merci Seigneur. Amen.